Chers frères et sœurs, voyez dans les Actes des Apôtres que nous avons entendu, c'était la première lecture, il est dit qu'ils étaient réunis tous ensemble. Au nombre de 120, nous dit saint Luc précédemment dans ce même livre des Actes des Apôtres, lorsque l'Esprit Saint, en cette fête juive de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, est descendu, comme Jésus l'avait promis, et a envahi le cœur de ses apôtres et de ses disciples pour en faire des témoins. Ils étaient réunis tous ensemble, dans la concorde, d'un seul cœur et d'une seule âme. Ils étaient là, dans ce cénacle, les portes bien verrouillées, par peur des Juifs, dans la prière, autour de la Vierge Marie, qui est toujours présente au milieu de nous lorsque nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, et dont nous avons l'image là, qui trône dans ce sanctuaire. La prière de Marie était tellement intense que leur cœur se dilatait, et peut-être qu'ils en oubliaient un peu leur peur. Toujours est-il que, lorsque le moment est arrivé, que Dieu seul connaît dans sa liberté souveraine, leur cœur s'est ouvert tout grand. Et le Saint-Esprit s'est emparé d'eux. La condition pour que nous connaissions nous aussi, aujourd'hui et tous les jours de notre vie, dans la vie de l'Église, d'une nouvelle effusion de l'Esprit-Saint, capable, comme en ce temps-là, de transformer nos cœurs et de nous faire oublier nos peurs pour être des témoins audacieux de cette bonne nouvelle, c'est la concorde. C'est d'être réunis tous ensemble dans l'unanimité qui vient de l'expression latine qui définit la première communauté chrétienne qui nous est décrite par saint Luc dans les Actes des Apôtres, anima una. Corunum et anima una. D'un seul cœur et d'une seule âme. Mais quelle est la source de notre concorde? Quelle est la source de notre unité? Il ne s'agit pas seulement d'être réunis ensemble dans un même lieu. Ça n'est pas d'abord une affaire de consensus entre nous. Ça n'est pas nous qui avons l'initiative de notre unité, quelle que soit notre bonne volonté. Mais c'est la prière. Ils étaient tous ensemble, fervents dans la prière, d'un seul cœur et d'une seule âme, pour pouvoir accueillir cette nouvelle effusion de l'Esprit-Saint qui fut en ce temps-là, au jour de la Pentecôte, la naissance de l'Église comme unité confessante de sa foi. Et c'est parce que les apôtres, dans la puissance de l'Esprit-Saint, ont confessé publiquement leur foi que des hommes et des femmes de tous horizons, de toute culture, j'allais dire de toute race et de toute religion, se sont rassemblés au nom du Seigneur pour constituer son peuple, pour constituer son corps, pour constituer son Église. Et cette parole a traversé les siècles et elle nous a encore atteints aujourd'hui par des témoins. Vous, chers confirmants, qui faites une démarche d'adulte pour demander le sacrement de la confirmation, à travers vos lettres que j'ai lues avec attention et qui sont à elles seules comme des livres des merveilles qui rendent compte de cette belle démarche Diaconia 2013 dans laquelle nous sommes engagés, pas d'abord des merveilles dont vous êtes vous-même les auteurs et dont vous auriez vous-même l'initiative, comme vous savez si bien le dire dans vos lettres, mais des merveilles que Dieu seul peut accomplir dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui comme de tous les temps, par une rencontre à l'occasion d'une préparation au mariage, au contact d'un groupe de prière. Vous avez senti, ressenti, comme des recommençants pour la plupart d'entre vous, le Seigneur lui-même qui s'invitait dans votre vie et qui vous apportait une joie, une paix, une force, un désir d'être toujours plus des membres à part entière de ce corps du Christ qu'est l'Église, de pouvoir témoigner de votre foi dans votre vie ordinaire, quotidienne. Et c'est ce qui vous a mis en marche pour recevoir le sacrement de la confirmation. Nous sommes aujourd'hui comme au Cénacle, réunis tous ensemble dans une atmosphère de prière. Cette prière ininterrompue pendant toute la journée, à travers en particulier l'adoration dans la chapelle des sœurs, où vous êtes sans doute relayés pour trouver un moment de repos auprès du Seigneur. Nous sommes rassemblés dans la ferveur de la prière, qui est l'expression de notre foi en un Dieu d'amour qui nous a donné son Fils, qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité et qui est toujours vivant au milieu de nous. Nous ne sommes pas rassemblés seulement pour accompagner nos amis qui vont être confirmés. Nous ne sommes pas rassemblés seulement dans la joie d'être ensemble, même si c'est déjà énorme. Et ce fut déjà toute cette journée de rencontres informelles, de partage, de reconnaissance mutuelle entre nos engagements si divers qui font le visage multiforme de notre Église de Bayonne, Lescar et Oloron, pour entendre des témoignages bouleversants qui nous disent aussi, en termes de réconciliation, ce que Dieu peut faire dans la vie d'une famille, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Mais nous sommes rassemblés autour d'un vivant. Lui seul peut nous réunir dans la ferveur unanime de cette célébration eucharistique. Nous sommes entrés dans la prière à l'aide de ces chants de louange, grâce au chœur Cantaria, que je remercie de venir animer, nous aider à prier et à louer le Seigneur aujourd'hui. De cette unité peut jaillir une nouvelle effusion de l'Esprit-Saint. Mais soyons réalistes, chers frères et sœurs. Nous avons entendu aussi la deuxième lecture de Paul aux Galates. Nous faisons en même temps, et c'est le paradoxe de notre vie humaine et chrétienne, l'expérience d'un affrontement entre les désirs égoïstes de la chair et les désirs de l'esprit. Il n'y a pas ceux qui sont du côté des désirs égoïstes de la chair et ceux qui seraient du côté des désirs de l'esprit. Mais cet affrontement, je le vis dans ma chair, à moi qui vous parle. Je le vis dans mon cœur, je le vis dans ma vie, et je suis invité particulièrement aujourd'hui à le reconnaître, alors que nous sommes réunis tous ensemble dans la concorde. Que de blessures à notre concorde, qui sont le fruit des désirs égoïstes de la chair, qui habitent ma chair, qui habitent mon cœur. Saint Paul nous en donne une litanie, à nous donner la nausée. Et avez-vous remarqué que le plus grand nombre d'actions que produit en nous la chair, comme dit saint Paul, concerne notre unité? Haine, jalousie, querelle, dissension, colère, division, sectarisme. Et nous ne pourrons jamais avoir par nous-mêmes l'initiative d'enrayer les désirs égoïstes de la chair et de les endiguer dans notre vie de manière durable. Seul le désir de l'Esprit en nous, seule la force de l'Esprit-Saint que Jésus nous communique est capable de vaincre toute dissension, tout sectarisme, toute colère, toute haine, toute division, pour y mettre l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité, la maîtrise de soi, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, seul, peut changer et transformer nos cœurs, peut changer et transformer nos vies. Vous qui prenez au sérieux le sacrement de la confirmation que vous allez recevoir dans quelques instants, vous le percevez, n'est-ce pas ? Que Jésus seul, par la force de son Esprit Saint, peut changer votre vie et peut construire la communion entre nous. Mais quelle conversion ! Quelle conversion personnelle et communautaire à laquelle le Seigneur nous invite sans cesse par sa parole. La transformer pas seulement pour nous établir dans la paix et la joie, mais pour faire de nous des témoins. Des témoins courageux, c'est dans ce sens que Jésus disait à ses disciples dans l'évangile que nous venons d'entendre, « Quand viendra l'autre défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui étiez avec moi depuis le commencement. » Le contexte dans lequel Jésus promet ce défenseur à ses apôtres est celui qui précède immédiatement dans le chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, où Jésus vient de dire « Si le monde a eu de la haine contre moi, il en aura aussi contre vous. S'il m'a persécuté, il vous persécutera aussi. » Il n'est peut-être pas donné, grâce à Dieu, à notre génération, ici en tout cas, de connaître la persécution. Mais je voudrais que nous n'oublions pas aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, tous les chrétiens dans le monde entier, au Moyen-Orient, en Irak, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et même en Europe, qui sont menacés dans leur liberté et dans leur vie parce qu'ils désirent demeurer fidèles au Christ. Nous avions à la cathédrale de Bayonne, la semaine dernière, une nuit des témoins, une veillée à l'initiative de l'aide à l'Église en détresse pour prier avec et pour ces chrétiens persécutés dans le monde. Nous avons lu une litanie de prêtres, de religieuses, de consacrés, de laïcs missionnaires qui sont morts cette année pour leur foi, en haine de la foi, dont les communautés demeurent fidèles, sont renforcées dans leur foi et qui conservent dans leur cœur la paix, la joie, la capacité de pardonner, d'aimer et d'aimer toujours davantage, y compris leurs ennemis. Quand les apôtres ont reçu le don de l'Esprit Saint, ils avaient peur, ils étaient terrorisés à l'idée qu'on les reconnaisse pour des disciples de Jésus. Et ils avaient des raisons d'être terrorisés. Qu'avait-on fait de leur maître ? Et que pourrait-on faire d'eux ? Lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ce fut miraculeux et merveilleux, n'est-ce pas ? Un grand vent violent qui envahit la pièce, un feu qui descendit du ciel, se répartissant sur la tête de chacun de ses disciples sous forme de langue. Vous ne verrez pas cela, désolé, chers frères et sœurs, même s'il y a une petite brise là, même s'il y a une petite brise qui nous rafraîchit. Mais le vrai miracle, c'est ce qui s'est passé dans leur cœur. La promesse de Jésus s'est accomplie, qui leur disait « Vous recevrez une force venue d'en haut, l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. » Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont oublié leur peur. Ils sont sortis sur la place publique où il y avait foule en ce jour-là, jour de fête, et ils ont commencé à proclamer que Jésus qu'ils avaient tué est ressuscité, qu'ils en étaient les témoins, qu'il avait changé leur vie. et rien ne les arrêtera plus. Ni arrestation, ni persécution. Ils préféreront même mourir martyrs plutôt que de renier leur foi. Plutôt que de renier et d'être infidèle à la mission qui leur avait été confiée. Ouvrez votre cœur, chers frères et sœurs, qui allez recevoir le sacrement de la confirmation, et vous tous qui les entourez. Ouvrez votre cœur dans la foi. Soyez unis. Vite, réconciliez-vous dans votre cœur avec tel ou tel, avec lesquels vous êtes en opposition, en rivalité, en colère, en dissension. Vite, réconciliez-vous devant le Seigneur et priez la Vierge Marie qu'elle vous dispose à accueillir la plénitude du don de l'Esprit Saint, capable seul de transformer la vie de vos personnes, de vos familles, de vos communautés, de notre Église, de la société tout entière. Et soyons-en les instruments, car nous sommes appelés à être les témoins de cette transformation de l'Esprit Saint. Amen.